Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, je vais vous parler de Pink Floyd. Alors parler de Pink Floyd quand on va être une émission parlant du blues, évidemment au début ça peut surprendre. Pourtant ce groupe, il a connu en fait une lente construction en partant du rhythm and blues, pour aller vers le progressive rock, en passant par le psychédélique. Mais en fait, tout a commencé en 1962, quand Roger Waters, Syd Barrett et David Gilmour, habitant la même ville, se retrouvent à Cambridge, cette fameuse ville, pour s'initier mutuellement à l'apprentissage de la guitare folk et rock. Roger Waters fait la connaissance de Nick Mason et Richard Wright, alors qu'il poursuit ses études à la Polytechnique de Londres. Syd Barrett prépare pendant ce temps-là les Beaux-Arts et David Gilmour, lui, est parti émigrer aux États-Unis avec ses parents, puis revient en Europe et s'installe en France. Donc, on voit que toutes les choses sont plantées, il ne reste plus qu'à organiser tout ça pour devenir ce qu'on va connaître. Et en automne 1965, Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright, qui sont devenus très amis, forment un groupe de pop qu'ils appellent les Architectural Advance. En fait, c'est un groupe qui, après avoir fait un essai manqué sous le nom de Sigma 6, regroupe un certain nombre de musiciens, dont Clive Metcalf à la guitare, Juliette Gale, qui est la chanteuse, et Keith Noble, le chanteur. Et le style de cette formation est plutôt rock, voire rhythm and blues, comme je disais au début. Et en fait, le groupe se retrouve chez un de leurs professeurs à la Polytechnique de Londres, Mac Leonard, et prend le nom de Leonard's Lodgers. En fait, on peut traduire par les locataires de Leonard, pour un temps en tout cas. Et Leonard fabrique des machines à éclairage projetées sur les murs, formant des formes psychédéliques. Et justement, cette forme d'art un peu bizarre qui était très en vogue à la fin des années 60, eh bien le groupe décide de commencer à jouer en s'inspirant de ce que ça leur suggère. Justement, toutes ces formes qui apparaissent sur les murs. Au printemps 1966, les Architectural Advance, qu'on pourrait traduire par les mauvaises annonces architecturales, ou Leonard's Lodgers, comme vous voulez, se séparent. Car Keith Noble, le chanteur, arrête, Cliff Metcalf également, et Juliette Gale, qui était la chanteuse, épouse Richard Wright, qui s'occupait déjà des claviers. Et ce dernier décide, avec Roger Waters et Nick Mason, de reformer un nouveau groupe, tandis que Bob Close les quittera finalement très rapidement. Ce qui permettra au groupe de développer le psychédélisme dans leur musique et tendre vers ceux, encore une fois, que nous avons connus, sans oublier, au fond, que leur musique vient du rhythm and blues. En 1966, le groupe est donc constitué de Syd Barrett, le véritable leader du groupe à l'époque, qui s'occupe de la guitare, du chant et des compositions. Il y a Richard Wright qui s'occupe des claviers, Roger Waters à la basse et Nick Mason pour la batterie et les percussions. La formation commence à se produire dans la région de Cambridge. Pendant ce temps, David Gilmour joue en France au sein d'un groupe appelé Flowers. Obligé de changer encore de nom, le groupe adopte la proposition de Syd Barrett qui propose donc The Pink Floyd Sound, une référence à deux musiciens de blues, Pink Anderson et Floyd County. Contrairement en fait à une idée reçue persistante en France qui veut toujours que Pink Floyd signifie flamant rose, et c'est donc pas vrai. D'ailleurs, au passage, flamand se traduit en anglais par flamingo, donc vous voyez, c'est vraiment différent. Et ça exprime plutôt ce que je disais au départ, l'importance du blues et notamment du rhythm and blues américain pour la scène rock anglaise des années 60. De fait, le son si particulier du premier quatuor s'est forgé lors des longues improvisations de standards de blues que le groupe jouait sur scène. Et rapidement, le nom se réduit à Pink Floyd, parce qu'en fait, le public les appelle désormais comme cela. Propulsé au devant de la scène underground londonienne, grâce à des articles du journal International Times et aux concerts à l'UFO Club, où passent parfois d'ailleurs les Beatles, très intrigués par cette espèce de buzz qui se crée autour de ce nouveau groupe, aux sonorités si bizarre, si nouvelle. John Lennon, en particulier, vient très souvent les voir. Le groupe développe donc des compositions principalement dues à Syd Barrett, qui propose un mélange de rock psychédélique américain, de progressive rock britannique et bien sûr de blues, particulièrement dans les solos de guitare. Le 6 mars 1967, le groupe passe pour la première fois à la télévision, et là c'est la révélation à l'échelle du pays. Et cela permet au groupe de signer un contrat avec la maison de disques EMI en 1967. Et le groupe sort alors deux singles. Le premier, Arnold Lane, le 11 avril, et See Emily Play, le 16 juin. Arnold Lane est banni des ondes radio pour ses paroles supposément explicites, mais atteint quand même le top 20, ce qui est une réelle percée en Grande-Bretagne. Je vous propose d'écouter Arnold Lane pour vous faire une idée de ce qu'était Pink Floyd à ce moment-là. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a toy.
Why can't you see?
C'était Arnold Lane par le groupe Pink Floyd sur OxyWeb Radio. Devant le début du succès rencontré par les deux singles sortis par Pink Floyd, le 5 août 1967, le premier album du groupe paraît. Il s'appelle The Piper at the Gates of Dawn, nom tiré d'un chapitre du Vent dans les Saules de Kenneth Grahame, ça c'est pour la petite info. Il est considéré d'emblée comme un exemple typique de folk psychédélique britannique, c'est-à-dire qu'on entend la guitare acoustique, mais on sent bien qu'il y a des sonorités qui l'entourent, qui elles, on va dire, sont de style très, très rock, très, très moderne. L'album est un succès au Royaume-Uni, mais pas aux États-Unis. Le 14 novembre, le groupe entame malgré tout une tournée avec Jimi Hendrix, ce qui lui vaut une certaine notoriété. Les Move, Amen Corner et les Nice les accompagnent également. Revenu en Angleterre, Royal Albert Hall de Londres, le guitariste des Nice, David Odlist, remplace Syd Barrett. En effet, Syd est revenu très diminué de la tournée aux États-Unis. En 1968, Syd Barrett souffre d'une dépression nerveuse attribuée notamment à l'usage prolongé de drogues psychédéliques, essentiellement du LSD. Il a du mal à résister à la pression de la vie du groupe, aux enregistrements, mais aussi aux tournées incessantes que connaît ce groupe. Ses performances scéniques se limitent à jouer la même note pendant toute la soirée. Donc à ce rythme, évidemment, le comportement de Syd Barrett dans la vie courante est devenu totalement imprévisible, mais aussi insupportable. Il oublie où il se trouve et il ne se rend pas parfois même au concert. Pendant un concert, en plein bad trip, comme on dit, d'acide, il arrache les cordes de sa guitare et s'enfuit en courant. Il n'empêche que le premier album est un succès. Et Astronomie Dominée, qui est extrait de cet album, reste sa meilleure contribution au groupe qui produit son premier tube et annonce son intention de passer les barrières du rock habituel. We'll be right back. écouter Astronomie Dominée par Pink Floyd sur OxyWeb Radio. Pour pouvoir continuer à jouer, les autres membres invitent le guitariste David Gilmour, revenu à Londres, à rejoindre le groupe afin de pouvoir assurer les spectacles. Il est officiellement intégré à la formation le 7 janvier 1960. David Gilmour doit prendre en charge les parties de guitare et de chant, normalement assurées jusque-là par Syd Barrett. Pink Floyd joue ainsi à 5 pendant une très courte période, jusqu'à ce que Syd Barrett, devenu totalement incapable de jouer sur scène, soit exclu définitivement le 6 avril. Il publiera par la suite 2 albums solo avant de se retirer paisiblement de la vie musicale. Si Syd Barrett a écrit la majeure partie du premier disque, The Pipers at the Gates of Dawn, il ne contribue que peu au second, A Sorrowful Secrets, qui paraît en 1968. Le groupe ayant perdu son principal autocompositeur, ce sont désormais les contributions de Richard Wright, donc le claviériste, et Roger Waters, le bassiste, qui prendront le relais. Avant que David Gilmour, par son jeu de guitare et sa voix, ne prenne plus d'importance, encore dans le nouveau son du groupe. Fin d'une époque. Le 17 décembre, Pink Floyd sort ce qui sera son dernier 45 tours anglais pour plus de 20 ans, Point Me at the Sky. C'est un échec commercial et confirme que le groupe doit continuer à privilégier sa musique plutôt pour la laisser au format d'un album. Écoutons néanmoins un extrait de l'album A Sorrowful Secrets, qui est un pur blues, a jig band blues. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful. En 1969, Pink Floyd fait le constat qu'il faut qu'il sorte de la routine dans laquelle il commence à s'installer. En fait, ils dressent le constat suivant, ils viennent de perdre leur leader historique, et pour eux, l'enjeu est alors très important. Il doit se refaire absolument une identité, mais tout en gardant la paternité de Syd Barrett. et en renouvelant son répertoire. La spécificité du groupe, ce qui a fait finalement que beaucoup de gens se sont intéressés à eux, à leur approche musicale, qui est véritablement très spatiale, un peu planant comme on disait, doit rester l'idée maîtresse de leur musique. Le groupe donc veut conserver l'idée. Et à partir de ce moment-là, Roger Waters va graduellement prendre de plus en plus d'importance dans ce groupe, en termes de direction créatrice, veuille-t-il. Et ultimement, jusqu'à ne considérer le reste des musiciens que comme de simples exécutants de ses propres compositions. Le premier disque sans Syd Barrett sera la bande originale du film « Mort » de Barbet Schroeder. Cette dernière se distingue par un son acid folk ou heavy metal, c'est-à-dire qu'ils alterneront entre les deux styles. Et en particulier, pour ce qui est de la partie heavy metal, la chanson The Nelson, que je vous propose d'écouter maintenant, en est la meilleure représentation. Le groupe original signe à ce moment-là, le 27 juillet, dans la nouvelle maison de disques Columbia. Personnellement, j'adore beaucoup le morceau Nile Song pour l'usage particulièrement original du son de la guitare. Mais jugez par vous-même. The Nile Song par Pink Floyd sur OxyWeb Radio. Le disque suivant s'appelle Oumaguma. Il paraît en septembre 1969. C'est un double album. Il présente sur le premier disque des enregistrements de prestations scéniques du groupe et sur le second disque des expérimentations signées séparément par chacun des membres. C'est la première fois que le public découvre sur disque, en dehors des enregistrements pirates, mais qui étaient quand même très très rares à l'époque, le son du groupe en concert. Son succès sera phénoménal et contribuera à faire passer le groupe dans la catégorie des supergroupes. Pour réaliser cet album, au cours de l'année 1969, les quatre musiciens de Pink Floyd ont l'idée de coller bout à bout des morceaux tirés de leur répertoire, d'en adjoindre d'autres inédits et de présenter ainsi sur scène des suites conceptuelles autour d'une idée force. Bon, je reconnais, c'est un peu compliqué à comprendre. Pour autant, deux œuvres voient ainsi le jour. Tout d'abord, The Journey, le voyage, et The Man, l'homme, qui sont les prémices des futures créations du groupe. Déjà, elles annoncent ce qui va arriver très rapidement désormais. Elles sont jouées du printemps 1969 jusqu'au début de l'année 1970. Après cet album, Pink Floyd s'écarte progressivement du psychédélisme pour produire des compositions plus nettement marquées du rock progressif. Il est difficile de présenter un extrait de cet album vu de la longueur et la particularité technique des morceaux. Je crois qu'aujourd'hui, ce son est assez difficile à entendre. Une exception est possible, d'après moi, avec Careful With That X Again. Seul morceau qui, pour moi, reste au format classique, qui peut encore passer aujourd'hui. Thank you. C'était attention avec cette hache, Eugène. Careful with this axe, Eugène, sur OxyWeb Radio. En 1970, on assiste donc à ce tournant vers le rock progressif. Et avec cette nouvelle notoriété, Pink Floyd participe à la musique du film Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, dont la bande originale sort en avril 1970. Malgré une certaine insatisfaction du réalisateur, qui ne gardera finalement que quelques-uns des morceaux proposés par le groupe, la thématique et l'esthétique du film correspondent tout à fait à ce que Pink Floyd faisait à l'époque. Dans la foulée, l'album Atom Heart Mother paraît le 10 octobre 1970. C'est un bon exemple des nouvelles prétentions artistiques que visent de nombreux groupes de rock à la même époque. Les deux pièces instrumentales qui débutent et achèvent le disque, ces deux pièces instrumentales en fait regroupent un peu tout un jeu sur les sons de mots et aussi sur des sons qui sont collés les uns derrière les autres. Et ces sons ont été enregistrés, par exemple, lors d'un petit déjeuner pris par un de leurs audits, pour dire que l'inspiration pouvait venir de n'importe où. Tout ça pour dire que, en fait, ce montage est assez étonnant, est assez nouveau à l'époque, et paraît être finalement ce qui se recherche un petit peu dans tous les groupes modernes à Londres. Tout ça place le groupe dans le giron de l'avant-garde musicale londonienne. Pour l'orchestration et la composition du morceau-titre, le groupe fit appel à Rock Gizin, qui avait déjà collaboré la même année avec Roger Waters l'album Music from the Body, un album solo. Stanley Kubrick aurait demandé à Roger Waters la permission d'ailleurs d'utiliser Atom Heart Mother pour son film Orange Mécanique, paru lui en 1971. Et en fait, cette permission lui est refusée car le groupe considère que sortie de son contexte, la musique n'aurait aucun sens et que Kubrick avoue ne pas exactement savoir encore comment il va s'en servir. Bref, le groupe aurait par la suite regretté cette décision après avoir visionné l'œuvre de Kubrick. Seulement, c'est trop tard. Je vous propose d'écouter la chanson intitulée If, qui rappelle le style initial du groupe, inspiré du folk dont je parlais tout à l'heure, et qui comprenait l'usage étonnant de nouvelles sonorités bien maîtrisées. Avec Pink Floyd, la voix, comme les instruments, ne sonne pas pareil.
Swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Thank you.
good man, I'd understand the spaces between friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home and dry. And if I go insane, will you still let me join in with the game?
Le groupe Pink Floyd, tiré de l'album Atom Earth Mother, vous savez, la pochette avec la vache, sur OxyWeb Radio. Avec l'album suivant, paru le 5 novembre 1971, Meddle, on assiste à l'ascension inexorable de ce groupe. Meddle est probablement l'album qui a consacré Pink Floyd comme un des groupes majeurs de l'époque, grâce notamment à deux morceaux. D'abord One of These Days, qui est devenu un classique de leurs concerts, et surtout Echoes, un titre long de 23 minutes, avec des passages instrumentaux longs et planants. Une légende persistante veut qu'Echoes, le dernier morceau de l'album, soit synchronisé avec la dernière section du film 2001 Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, sorti 3 ans plus tôt. En fait, il n'y a jamais eu de confirmation sur cette rumeur, et à ma connaissance, c'est pas démontré. Par ailleurs, c'est Meddle qui définira clairement le son de Pink Floyd comme progressif. C'est-à-dire que désormais, dans l'œuvre de Pink Floyd, on entendra de longues pièces complexes, surtout sur scène, et souvent divisées en plusieurs mouvements. Ce qu'avait amorcé l'album précédent, Atom Earth Mother, et ce qui jusque-là était suggéré ou envisagé, mais pas totalement abouti, tout ça franchira un nouveau palier dont le groupe profitera pour accomplir assez vite l'étape suivante, du moins si on néglige l'album qui viendra immédiatement derrière Atom Earth Mother, mais nous en reparlerons. Je vous propose d'écouter One of These Days.
Thank you.
One of These Days par Pink Floyd, tiré de l'album Medal sur OxyWeb Radio. Comme je disais, l'album suivant, Obscures by Clouds, sorti en 1972, a connu un sort un peu bizarre. En effet, au départ, il contient la bande sonore enregistrée au château d'Hérouville en France, qui était destiné au nouveau film de Barbet Schroeder, La Vallée. Certes, cet album confirme la voix empruntée par le groupe depuis peu. Le problème est que cet album connut un grand succès avant de disparaître avec le temps. Aujourd'hui, plus grand monde ne parle de cet album, ni d'ailleurs du film. De mon point de vue, cet album avait en fait bénéficié du succès de Medal, et le jeune public avait considéré que c'était la suite normale. Cette même année 1972, le groupe tourne un concert à Pompéi, près de Naples, en Italie, qui détonne par son absence totale de public. Le groupe, en effet, joue seul au milieu des ruines de la cité romaine. Pour beaucoup, ce concert, sorti en salle de cinéma en 1972, est le type même du son Pink Floyd, progressif et planant. Lors de ce concert, le groupe reprend le concept de la chanson Seamus, tirée de Medal, et fait chanter un chien en jouant très probablement sur la sensibilité acoustique de ces animaux aux saturations d'un harmonica. Le titre, Mademoiselle Nobs, reste musicalement étrange, mais témoigne finalement de l'ambition du groupe de jouer à l'infini avec les sons. Il faut rappeler qu'à cette époque, Pink Floyd jouait ses nouvelles compositions sur scène avant de les enregistrer en studio. Aussi, leurs noms ont-ils varié jusqu'à la publication des disques. Cela fut vrai jusqu'à Animals, l'album Animals, où Sheep, Dogs and Pigs ont été joués en tournée bien avant la sortie de l'album, comme ce fut le cas avec The Dark Side of the Moon, qui sortira après Obscured by Clouds. Le Mademoiselle Nobs est une réminiscence de ce procédé. J'ai choisi dans le morceau Childhood's End pour rendre hommage à Richard Wright, disparu en 2008, et travailleur acharné des claviers comme Nick Mason pour les percussions. Tous deux sont longtemps restés tapis dans l'ombre des grands leaders que furent successivement Syd Barrett, Roger Waters, puis David Gilmour. Voici Childhood's End. C'était donc Childhood's End, tiré d'Obscures by Cloud, de Pink Floyd, sur OxyWeb Radio. Derrière cet album allait sortir en 1972 le fabuleux Dark Side of the Moon, rempli de tubes, malgré le fait que le groupe reste fidèle à ses idées, mais franchit un nouveau palier que le public, adeptes ou non de leur musique, adoptera en masse. Il aborde des thèmes universels comme le travail, l'argent, la vieillesse, la guerre, la folie et la mort. Pour l'enregistrement, le groupe se servit de techniques encore rares à l'époque et utilisa des synthétiseurs analogiques comme le fameux VCS3 sur plusieurs des pistes. Alan Parsons était l'ingénieur du son. À noter la performance de la chanteuse anglaise Claire Torrey sur The Great Gig in the Sky. Si vous voulez avoir le frisson, je vous le recommande. La pochette, réalisée par Tom Torgerson, est la réponse à la demande du groupe d'un concept graphique simple et audacieux. Le célèbre prisme représente en fait l'éclairage scénique du groupe. Cet album sera resté dans le Billboard 200 américain pendant une période record de 933 semaines. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est l'équivalent de près de 18 ans, dont 591 consécutivement. Le disque représente jusqu'à aujourd'hui la troisième des meilleures ventes d'albums de tous les temps avec plus de 45 millions de copies. Il est important de garder à l'esprit que Pink Floyd est parti du blues, du rhythm and blues, puis est passé au rock psychédélique, comme c'était un peu la tendance dans les groupes anglais, avant de plonger dans le rock progressif. Je pense que c'est conforme à ce que Syd Barrett rêvait de faire. Malheureusement, il a disparu en 2006 et n'a jamais vraiment recouvert tous ses esprits. Et pour moi, ça reste quand même un des exemples les plus évidents de où peut mener le blues, pour peu qu'on en sorte. La semaine prochaine, je vous parlerai de Deep Purple. Et là aussi, je vous parlerai des débuts de Deep Purple, avant qu'on ne sorte l'album In Rock. Mais d'ici là, roulez blues!